Si vous n'avez pas encore acheté votre calendrier biblique, je vous encourage vivement à en acheter ici, auprès de Denise et Muriel, à la fin du culte, avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'il n'y a presque plus d'exemplaires de ces deux calendriers dans tous les quatre coins de l'hexagone. Est-ce qu'un hexagone a quatre coins? C'est une bonne question. Si vous connaissez peu la Bible, vivre aujourd'hui est pour vous. Si vous connaissez un peu, ou bien, ou très bien la Bible, méditation quotidienne est pour vous. Et vous allez voir que certains feuillets ont été écrits par des membres de l'Église de Lausanne. Alors, ça encourage aussi. Donc, je vous invite à prendre, ou plutôt à acheter, auprès de nos deux sœurs. Un avantage d'être avec des frères et des sœurs, c'est qu'on se sent à l'aise. Et on peut se dire des choses. Et ce matin, j'ai envie de vider mon sac devant vous. Pas mes lunettes. Ça va. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique. Alors, si vous êtes tenté d'appuyer sur le bouton off pour vous déconnecter, je vous encourage à attendre quelques minutes et d'appuyer sur votre doigt sur le bouton on, marche plutôt que arrêt. Le Lévitique, le chapitre 26. Juste aussi pour vous dire que la famille Sutherland était très heureuse de son premier Noël ici à Lyon. On était heureux d'être ensemble en famille. Nos quatre enfants étaient réunis pour la première fois depuis le mois d'août. Et vendredi, un est parti. Samedi, une autre est partie. Ce soir, la troisième va partir. Mais c'est bien d'être ensemble. Le Seigneur fait venir et le Seigneur fait repartir. Jusqu'à la prochaine fois. Lévitique chapitre 26, et je lis à partir du premier verset. Lévitique 26, verset 1. Vous ne vous ferez pas de faux dieux. Vous ne vous dresserez ni sculpture sacrée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes sabbats et vous traiterez mon sanctuaire avec déférence. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs leurs fruits. Le battage du blé durera jusqu'à la vendange et la vendange jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je redis cette phrase. Personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Ainsi, 5 parmi vous en poursuivront 100 et 100 parmi vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous donnerai des enfants et vous rendrai nombreux, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous devrez les sortir pour faire place aux nouvelles. J'établirai mon habitation au milieu de vous et je ne montrerai pas de dégoût envers vous. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte, qui vous ai tiré de l'esclavage. J'ai mis un terme à l'oppression qui pesait sur vous, et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais, si, toutefois, vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si jamais vous méprisez mes commandements, mes prescriptions, si vous montrez du dégoût envers mes règles au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique et de rompre mon alliance, voici ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement et la fièvre qui épuise le regard et ronge la vie. Vous sèmerez vos semences pour rien. Ce sont vos ennemis qui les mangeront. Je me tournerai contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous détestent domineront sur vous, et vous fuirez sans même que l'on vous poursuive. Nous arrêtons la lecture ici. J'ai l'honneur et la responsabilité d'apporter le premier message lors du premier culte de cette nouvelle année. Ce n'est pas la première fois que j'ai cet honneur et ce privilège. Il y a quelques années, dans les années 90, lorsque c'était à moi de prêcher au début du mois de janvier, j'ai décidé de prendre le psaume qui correspondait à l'année. Donc, début 96, j'ai prêché sur le psaume 96. Début 97, j'ai prêché sur le psaume 97. Début 98 et ainsi de suite. Bien sûr, en 2000, j'ai pas pu prendre le même psaume, mais quelqu'un d'autre a prêché à ma place. Et puis après ça, j'ai décidé de prendre un petit titre pour mon message. Meilleur vœu pour 2002. Dieu et moi en 2003. Et cette année, que notre vie lui plaise en 2013. On va y revenir. D'ailleurs, est-ce que j'ai des choses ici qui vont apparaître? Est-ce que c'est le premier? Oui. Merci. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est partager quelques petites phrases qu'on trouve dans le livre du Lévitique. Certains savent que pendant le mois de décembre, d'ailleurs même à partir du 15 novembre, j'ai passé 6 semaines dans mon culte personnel dans le livre du Lévitique. Alors, pour certains, on dit, le Lévitique, oh là là, c'est mortel comme livre. Mais je vous encourage à le lire avec une Bible d'études, si vous en avez une. Sinon, demandez à Muriel et à Denise, et elles vont trouver une Bible d'études pour vous, pour lire lentement le livre du Lévitique. Et j'ai trouvé des phrases qui reviennent plusieurs fois. Par exemple, une phrase qui m'a marqué était « Le pardon lui sera accordé ». Quelle grâce de se savoir pardonner. Une autre phrase, Dieu dit à Moïse et parfois à Aaron, transmet ses instructions au peuple. Une autre phrase qui revient, être agréable à l'Éternel. Et le nombre derrière, c'est le nombre de fois que j'ai trouvé ces phrases dans ce livre. Une autre phrase qui revient 17 fois, être pour l'Éternel. Une autre phrase qui revient 48 fois, et on l'a vu 2-3 fois déjà dans notre lecture, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Une autre phrase, 51 fois, « Être devant l'Éternel. » Et la médaille d'or va à une autre phrase qui m'a beaucoup interpellé, « Être pur ou impur devant le Seigneur. » Alors, j'ai à cœur de formuler des vœux en fonction de ces phrases. Des vœux pour nous, pour l'année 2013, afin que notre vie plaise au Seigneur en 2013. Et le premier vœu que j'ai formulé est tout simplement que nous puissions tous connaître le pardon des péchés. Est-ce que vous avez tous demandé pardon au Seigneur pour vos péchés? Vous savez, quand on se convertit, déjà, ce jour-là, on est pardonné. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Mais le pardon n'est pas seulement un besoin pour la conversion, mais il s'agit d'un besoin au quotidien. On a toujours besoin d'être pardonné. Et Dieu seul peut nous pardonner. Tout péché qui est confessé est pardonné. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit « Celui qui cache ses péchés ne réussira pas. Tandis que celui qui les confesse et qui les abandonne, les deux choses, aura compassion. » La compassion de Dieu. Est-ce que nous avons tous confessé nos péchés? Est-ce que nous sommes tous prêts pendant 2013? Lorsque Dieu nous montre quelque chose, est-ce qu'on sera prêt à confesser et à abandonner, à délaisser, à tourner notre dos à nos péchés? Premier vœu, que nous puissions tous connaître le pardon des péchés en 2013. Deuxième vœu, que nous sachions enseigner la parole de Dieu. Il est question de cela, lorsque Dieu dit à Moïse, transmet ses instructions au peuple. C'était d'abord le rôle de Moïse et d'Aaron de transmettre la parole de Dieu au peuple. Ensuite, c'était le rôle des prêtres et des prophètes de transmettre la parole de Dieu au peuple. Et c'était important que la parole soit enseignée au peuple, que le message soit transmis, et que le message soit reçu par le peuple de Dieu. Et ma prière pour nous, c'est que nous puissions toujours enseigner la parole de Dieu avec fidélité. Et que nous puissions pas seulement enseigner, mais qu'on puisse tous recevoir le message de Dieu pour nous. Au lieu de choisir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, mais de dire, c'est sa parole, c'est pour moi aujourd'hui. D'où l'importance de prier pour les prédications, pour les études bibliques, ici dans notre église. D'où l'importance de prier pour l'enseignement de la Bible aux enfants, en face, aux ados, aux pré-ados, aux jeunes. C'est tellement important de prier que nous puissions enseigner la parole de Dieu pour que les gens sachent que c'est ce livre-là qui fait autorité dans notre vie. Je pense au vœu du nouvel an d'un ancien président, avant mon époque, qui a dit, il a commencé ses vœux en disant, avec une tête d'enterrement, « Je ne veux ni vous ennuyer, ni vous attrister. » Vous savez, la dernière chose, d'ailleurs, quand j'ai vu ça, j'aurais eu envie de zapper tout de suite. Mais c'est la dernière chose qu'on veut faire dans une église évangélique. Ennuyer les gens. Attrister les gens. Je dirais que oui, parfois on a besoin d'être triste quand on voit ce que Dieu exige et quand on voit notre vie à nous. Parfois on doit être triste devant la parole de Dieu. Mais on a besoin de prier, Seigneur, nous voulons enseigner ta parole. Et nous voulons recevoir sa parole. Et nous avons besoin parfois d'encourager les moniteurs et les monitrices des codes des dimanches, parce que parfois c'est un travail ingrat, et on a besoin de les encourager et de prier que Dieu les aide à persévérer dans ce travail. Ils ne voient pas toujours du fruit, mais on a besoin de les encourager et que Dieu les aide à persévérer, à enseigner la parole de Dieu, à transmettre les instructions de Dieu aux enfants, quel que soit leur âge. Troisième vœu, que tout ce que nous faisons soit agréable à l'Éternel et pour l'Éternel. Excusez-moi. Je crois que j'ai un chat dans la gorge, donc je vais le noyer. Que tout ce que nous faisons soit agréable à l'Éternel et pour l'Éternel. La Bible nous dit que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Colossiens chapitre 1. Dans Colossiens chapitre 3, nous lisons que tout ce que nous faisons soit fait non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Et nous devons vivre cette année sachant que, Seigneur, je veux être agréable à tes yeux. Une prière que j'ai priée pendant des années, de façon quotidienne, est une prière dans un psaume qui dit que, Seigneur, veuille agréer les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Le psaume 19, verset 14. Ou dans une autre version, que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur te soient agréables, Seigneur. Est-ce que c'est notre prière au début de cette année? Vous savez combien de mots sortent de notre bouche tous les jours? Bien sûr, il y a des cas, des exceptions. Je suis un homme de peu de paroles, mais il y a d'autres personnes qui disent plus. Mais en moyenne, entre 25 et 30 000 mots sortent de notre bouche. Ça équivaut à un livre de poche de 150 pages. C'est pas mal, hein? Alors, les paroles qui sortent de notre bouche en 2013, est-ce que ce sont des paroles douces, belles? Ou est-ce que ce livre qu'on va écrire tous les jours va équivaloir à un livre d'horreur interdit aux moins de 18 ans? Hein? Parfois, on écrit des livres comme ça, avec nos paroles. D'où l'importance de prier, Seigneur, que mes paroles te soient agréables et que je puisse vraiment vivre pour toi. Non pas pour moi, mais pour toi en 2013. Que notre vie lui plaise en 2013. Quatrième vœu, que nous connaissions de mieux en mieux l'Éternel, notre Dieu. À 48 reprises, Dieu dit à son peuple, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Parfois, il ajoute, « qui vous ai libéré de l'esclavage. » Il aurait pu ajouter, « qui vous ai guéri de la cécité spirituelle. » Parce qu'avant la conversion, nous étions tous, pas seulement esclaves, mais aveugles. Et Dieu nous a délivrés, il nous a libérés, il nous a guéris. Et ma prière, mon vœu, c'est que nous puissions mieux connaître ce Dieu formidable. Il y a un chant dans Jean l'Éternel qui dit, « Seigneur Jésus, la vie pour moi, c'est de te connaître, c'est de t'aimer, et troisième strophe, te servir. » Et mieux on connaît le Seigneur, on va l'aimer davantage, et on va pouvoir le servir de façon plus efficace. Pas toujours de façon plus fructueuse, les résultats ne dépendent pas de nous. Mais si on le sert de façon efficace, alors là, on aura gagné quelque chose. Est-ce que nous connaissons bien le Seigneur? Il nous connaît bien. Mais nous devons chercher à le connaître de mieux en mieux, de plus en plus pendant toute cette année. Et si je peux me permettre de vous encourager à trouver et à lire un livre que j'ai lu je ne sais pas combien de fois, ça s'appelle « Connaître Dieu ». L'auteur Jim Packer. Et c'est un livre qu'il faut lire lentement pour pouvoir digérer lentement. Mais un livre qui parle de ce Dieu formidable qui nous aime, qui nous a pardonné et avec qui nous allons passer toute l'éternité. Cinquième vœu, et j'en ai six en tout, que nous ayons l'habitude de venir quotidiennement devant l'Éternel. Cette phrase qui revient 51 fois, au moins. Je suis prêt, comme toujours, à me faire contredire. Si vous trouvez que cette phrase revient plus que 51 fois, je serai ravi de savoir que d'une part, j'ai eu tort, et d'autre part, que vous avez lu le livre du Lévitique en entier. C'est formidable. Mais être devant l'Éternel. C'est une phrase que Élie prononce lorsqu'il vient confronter le roi Achab dans 1 roi 17 verset 1. Il parle du fait qu'il n'y aura plus de pluie. Il dit, et c'est Dieu qui le dit, et c'est devant l'Éternel que je me tiens. Il savait que bien qu'il soit devant l'homme le plus puissant de la planète, il se tenait aussi devant l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, en parlant de son cousin Jean-Baptiste, dit quelque chose du genre, il brûlait et il brillait devant l'Éternel, dans l'évangile des gens. Et combien nous avons besoin de brûler et de briller devant le Seigneur. Et de savoir que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, se fait devant l'Éternel. On n'en est pas toujours conscient. Mais c'est une réalité, les amis. Tout se fait devant l'Éternel. Un autre aspect de cette idée d'être devant l'Éternel, c'est de venir quotidiennement pour prier. Prier le Seigneur. Passer du temps à adorer le Seigneur. Passer du temps à remercier le Seigneur. Passer du temps à intercéder et prier, prier, prier. Il y a quelques années, nous étions interpellés, surtout moi, par une sœur âgée dans notre église dans le nord de la France. C'était à l'époque où il y avait pas mal de Français qui étaient otages en Irak. Et cette chère sœur a dit, lors d'une réunion de prière, est-ce qu'on peut prier pour Florence Aubenas, otage en Irak? Alors bon, c'est la première fois qu'on me demande de prier pour une otage. J'ai dit, oui, on va prier pour elle. Que Dieu la libère et que Dieu lui parle. Pendant des mois et des mois, on a prié tous les jeudis après-midi, on priait pour cette, je vais pas dire cette sœur, pour cette personne. Merci, François. Pour cette personne. Et parfois, on priait même dans la journée pour elle. Et puis, bien sûr, Florence Aubenas, comme vous savez, a été libérée. Quelques mois après sa libération, j'ai vu dans le journal qu'elle venait à Arras pour une exposition sur des livres. Et elle était là avec un stand. Donc j'ai dit, c'était le 1er mai, je vais aller essayer de la rencontrer. Donc j'ai prié, Seigneur, permets que je puisse la rencontrer et que je puisse lui dire quelque chose de ta part. Tout en étant timide, j'ai dit, Seigneur, donne-moi le courage pour que je puisse la voir et lui dire quelque chose. Donc le matin, je vais à cette exposition. Et j'attends qu'elle arrive, elle est arrivée, et j'étais la première personne à son stand. Alors je me suis trouvé nez à nez avec elle, elle vendait un livre qu'elle avait écrit des années auparavant, et je me suis présenté. Et j'ai dit tout simplement que notre église protestante évangélique d'Arras, nous avons prié pour vous pendant votre libération, pendant votre détention, captivité, merci. Et on a prié pour vous, et puis voilà, on est content de savoir que vous avez été libéré il y a quelques mois. Et il m'a regardé. Je voyais dans sa tête qu'elle se disait, mais prier, l'église, c'est quoi ce bonhomme devant moi? Donc, j'ai dit, mais écoutez, j'aimerais acheter votre livre. Donc j'ai donné l'argent, j'ai pris le livre. Et elle m'a dit, vous appelez comment déjà? Donc j'ai dit, David. Et voilà ce qu'elle a mis au début de son livre. Pour David. Elle s'adresse à l'Église en tout. Vous voyez vos prières au marché. Où serais-je sans vous? Bien à vous, Florence Aubenas. Elle serait nulle part, pas sans moi, mais sans Dieu. Je voulais qu'elle sache que c'est Dieu qui a permis qu'elle soit libérée. Et depuis ce jour-là, ça fait déjà quelques années, toutes les semaines, elle est sur ma liste de personnalités pour qui je prie. Parce qu'il y a des personnalités qui se convertissent. Elle pourrait avoir un témoignage dans un monde que moi, je ne pourrais jamais toucher. Et on a l'habitude, les amis, de venir quotidiennement devant le Seigneur dans la prière et de persévérer dans la prière. Prions pour notre Église. D'ailleurs, où serait l'Église de Jérusalem aujourd'hui si des gens n'avaient jamais prié pour elle? Ça fait pas loin d'un siècle. Si j'ai compris, au moins 80 ans, qu'on prie pour l'Église de l'Oursonara, pour ses membres, pour les gens qui fréquentent. Continuons à venir devant le Seigneur pour prier pour notre Église et pour le monde autour de notre Église qui ne connaît pas le Seigneur. Et pour terminer, mon dernier vœu, c'est que nous puissions rechercher tout ce qui est pur, et fuir ou rejeter tout ce qui est impur. Pur, impur. Pur, impur. Cette phrase revient au moins 74 fois dans ce livre de Lévitique. Et le Seigneur veut que nous soyons pur, plus blanc que la neige. C'est possible. Plus blanc que la neige. Et le diable fait tout pour que nous soyons impurs. Et si on est impur, ça veut dire qu'on est inutile aux yeux de Dieu. On peut épater les gens, mais on peut être inutile aux yeux de Dieu. Parce que lui seul voit notre cœur. D'où l'importance d'avoir nos yeux ouverts sur les ruses de Satan. Ou pour citer l'apôtre Paul, nous n'ignorons pas ses desseins, sa stratégie. Il faut toujours avoir des yeux ouverts sur ce que le diable veut faire, afin de pouvoir reconnaître et résister. Résister à Satan, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 7. Il y a 280 ans, la semaine dernière, est né un bébé d'origine écossaise, mais il est né en Italie. Et il avait 7 prénoms. La moitié était d'origine italienne, l'autre moitié était d'origine écossaise. Et ne me demandez pas, c'est quoi la moitié de 7, hein? C'est difficile à expliquer. Mais il s'appelait Charles, ou comme disaient les gens de l'époque, Charlie. Et Charles, donc, il avait du sang royal, donc il voulait le trône de l'Angleterre. Et il est allé en Écosse, il a trouvé des soldats, ils ont attaqué les Anglais. Et malheureusement, les Anglais ont gagné. Donc Charles est venu en France. Il savait que les Français n'aimaient pas les Anglais. C'est toujours le cas, j'espère. En fait, c'est toujours enregistré ce message. Bon, c'est pas bien ça. On va essayer de couper ça. Bon. Youpi, où j'en étais là. Oui, Charles vient en France. Il trouve des Français qui n'aiment pas les Anglais, c'est-à-dire tout le monde. Et ils attaquent l'Angleterre. Et malheureusement, les Anglais ont encore gagné. Même avant que les Français arrivent en Angleterre, c'était la flotte anglaise a fait couler la flotte française. Bon, ça c'est de l'histoire. Ça c'était dans les années 1760. Mais en 1745, lorsque Charles attaquait les Anglais, il a fait fabriquer un couet. Alors un couet, c'est un mot gaélique, et un couet était... Voilà, maintenant, depuis une demi-heure, vous vous demandez pourquoi j'ai annoncé ça. Un couet ressemble un peu à ça. C'est plus petit, c'est moins profond, mais il est deux poignées, et ça permettait aux gens de boire, et malheureusement, ce n'est pas du thé, c'est du whisky, de boire le whisky comme ça. Couet. Les couets existent toujours aujourd'hui. Alors, les couets étaient fabriqués plus ou moins en argent, il fallait déjà avoir les moyens pour le faire, fabriquer, mais Charles, c'est pour ça que je parle de Charles, hein. Charles a fait fabriquer un couet unique. C'était tout en argent, sauf le fond. Le fond était en verre. Ce qui veut dire que quand il était assis avec tous ses soldats devant, il buvait. Et qu'est-ce qu'il voyait? Il surveillait son armée. D'une part, mais d'autre part, quand il buvait, si l'ennemi venait au loin, il voyait les méchants Anglais. Non, il voyait l'ennemi qui arrivait. Vous voyez la stratégie de ce chef, surveiller ses hommes et surveiller l'ennemi. Alors, nous n'avons pas tous un couet. Ça s'écrit Q-U-A-I-C-H. Nous n'avons pas tous un couet, et c'est au masculin. Hein? Mais nous devons tous, non pas surveiller nos prédécesseurs, mais surveiller surtout l'ennemi. S'il vient de loin, est-ce qu'on a les yeux ouverts? C'est un peu le même principe que j'ai dit en session d'abord, vous savez, dans l'histoire, dans le livre des juges, je vais poser ça. Dans le livre des juges, il y avait des soldats qui buvaient l'eau dans la rivière comme des chiens, et d'autres qui prenaient dans la main et qui buvaient comme ça. Et en faisant ça, ils avaient les yeux ouverts pour l'ennemi. Alors cette année, les amis, que nous puissions avoir les yeux ouverts, parce que tout lui est permis, il faut dire. Toutes les stratégies pour lui sont bonnes, et pour nous sont mauvaises. Ayons les yeux ouverts, et chaque fois que vous buvez dans votre couère, eh bien, regardez, pas trop vos frères et sœurs, c'est surtout l'autre. Ayons les yeux ouverts sur notre ennemi. Donc, pour conclure, mon vœu, ma prière, est tout simplement que notre vie lui plaise en 2013. Amen.